Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Escapade et vous, réalisée en direct en ce jeudi début d'après-midi depuis les studios de Radio Escapade à Saint-Hippolyte-du-Fort. Je suis en compagnie de François Simon. Bonjour François.
Bonjour Antoine.
Nous allons discuter, donc, comme je le disais en préambule, de pollution minière avec l'association Adam VM, ce qui veut dire Association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne. Une association que vous connaissez peut-être puisqu'elle existe depuis pas 20 ans, mais entre 10 ans, on va en discuter un
2010.
Petit peu. Depuis 2010, ça fait quand même 14 ans déjà. Une association donc qui tente déjà de récolter de l'information sur la pollution dont est victime le village de Saint-Félix-de-Palière et les communes avoisinantes suite à une pollution minière qui est liée donc au passé minier de la région. Et cette association cherche déjà à chercher dans un premier temps à défendre la vie des riverains, avoir de l'information, puisqu'il y a de nombreuses problématiques liées à la santé, puisque quand on parle de pollution minière, on va parler de métaux lourds, de choses comme ça, qui peuvent impacter très fortement la santé et l'habitat des personnes sur place. Est-ce que, avant justement de venir aux actions de cette association Adam VM, est-ce que François Simon, on peut déjà revenir un petit peu sur l'origine de cette pollution, à savoir donc les mines de Saint-Félix ?
Oui, on peut dire que nous avons créé cette association en 2010 suite à la connaissance, à la divulgation d'un rapport qui était arrivé en 2008 en mairie à Saint-Félix-de-Palière. Ce rapport avait été envoyé par le préfet de l'époque, le préfet Beulion, au maire de Saint-Félix. Il avait été envoyé aussi avec un autre travail à d'autres communes, en particulier à Durfort, à Tornac. Et donc, quand on a eu connaissance de ce rapport, effectivement, on s'est dit qu'il était curieux d'apprendre comme ça, parce que ce rapport, finalement, a été mis dans un tiroir. Le maire ne l'a jamais évoqué, si ce n'est pour dire quelques années plus tard que, effectivement, il l'avait mis dans un tiroir parce que pour lui, c'était de l'hébreu. Et il avait même fait de l'humour, de très mauvais humour, en disant que c'était de l'hébreu très très ancien. Et donc il ne comprenait rien, alors que c'était vraiment pas très très compliqué de le découvrir et puis de le comprendre. Et en plus, on est dans une région où il y a l'école des mines à Alès, il n'était pas difficile non plus de faire appel à des gens qui connaissent le sujet. Bref, donc on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une pollution qui était assez conséquente, avec des zones très importantes, et en particulier, il y avait ce qu'on a appelé la digue Humicore du nom du dernier exploitant minier. Cette digue qui contenait environ 1 500 000 tonnes de déchets. Et cette digue, c'est la zone la plus contaminée sur Saint-Félix et sur Toiras. Et donc, on s'est évertué en créant l'association à demander à ce que cette zone qui a été très mal entretenue et très mal confinée au tout début, ça se détériorait et donc les substances toxiques se déversaient dans les petits ruisseaux et rejoignaient l'Ourne et le Gardon d'Anduze. Donc on a demandé à ce qu'effectivement le propriétaire de la digue, parce que Humicore restait propriétaire de la digue, fasse le nécessaire. Donc il a fallu lutter et on a obtenu satisfaction. C'est le gros point de satisfaction, si je puis dire, sur cette lutte qui dure encore depuis plus de 10 ans. C'est que le propriétaire a donc confiné, a fait des travaux en 2022-2023, et donc des travaux qui ont duré presque une année. Et donc la digue a été confinée, c'est-à-dire en rocher, il y a une membrane géotextile qui a été posée, de la terre, ça a été végétalisé. Et donc actuellement, a priori, il faudra voir sur les prochaines analyses qui sont réalisées ensuite pour voir l'efficacité du confinement. Mais a priori, cette zone est sécurisée et ça va éviter que effectivement les poussières ne s'envolent ou que les choses partent dans les rivières avoisinantes.
Parce que cette zone là, donc, qui est polluée, cette zone de la mine. Elle est située en amont, au-dessus donc, du village. Donc effectivement, tout peut descendre par gravité avec l'eau ou le vent.
Oui, elle part en fait, la pollution concernant la mine de Saint-Félix, elle part sur un versant nord vers Thoiras et sur un versant sud sur Saint-Félix, voire aussi par Lourne jusqu'à Tornac. On a toujours dit, alors là, il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a une autre mine, qui est ce qu'on appelle la mine Joseph, qui est moins importante, mais où il y a eu aussi des déchets qui ont été accumulés, mais où là, c'est un état catastrophique, et on avait demandé au préfet de faire le nécessaire, parce que, en fait, si jamais il y a un épisode cévenol un petit peu plus important, comme il y en a quand même malheureusement assez souvent dans la région, ça pourrait emmener des déchets dans la zone de Tornac. Et la zone de Tornac, c'est quand même une zone viticole, avec des viticulteurs qui sont en bio, etc. Donc vraiment, c'est vraiment très problématique. Mais là, bon, ça demande des travaux importants. Et en plus, ces zones-là n'appartiennent plus à Umicore. Donc ça appartient à des privés, ça a été vendu. Et donc là, c'est vraiment encore un autre problème. Mais en principe, Umicore devrait être toujours, étant le pollueur, il devrait être, celui qui devrait faire les travaux nécessaires de réhabilitation, en tout cas de confinement, pour éviter une catastrophe de ce genre.
Alors j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu dans le temps justement avec Umicore. Donc c'est une société belge, il me semble, qui a exploité donc, cette mine jusqu'aux années 70 à peu près.
C'est ça, oui, la mine ferme en 71. La mine Joseph, elle ferme plutôt en 55. Il y avait aussi une mine à Durfort, parce qu'on est dans une zone. Hein, on en dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'on est allé faire un tour il n'y a pas longtemps sur la zone de Durfort, où là, rien n'a été fait non plus, et où il y a quand même presque un hectare de déchets qui ont été accumulés. Effectivement, à Durfort, ça ferme en 57. À Durfort, il y a eu environ 20 000 tonnes de zinc qui ont été extraits. Sur Saint-Félix, c'était, je crois, 80 000 tonnes de plomb et 35 000 tonnes de zinc. Les mines ont fermé, mais effectivement, la pollution reste. Hein, ça, c'est quelque chose qui est là pour longtemps.
Ce qu'il faut expliquer, donc, quand une entreprise minière décide d'exploiter un filon, on imagine bien qu'il faut aller creuser. Mais en creusant, on sort un paquet de matériaux, de roches qui ne sont pas, à proprement parler, les minerais qui vont être possibles d'être commercialisés après. Donc tout ça va rester sur place, mais il y a déjà dedans des matériaux qui peuvent potentiellement poser problème. On a parlé du plomb, etc. Et après, dans le processus même encore de traitement, je crois, de ce qu'on récupère vraiment qui nous intéresse, là encore, il faut un petit peu purifier tout ça, et on emploie d'autres métaux lourds comme le cyanure notamment, des choses comme ça.
Oui, on utilise le cyanure pour obtenir certains métaux. Mais c'est vrai que quand on va creuser, quand on va forer pour extraire les minéraux, enfin les métaux qui nous intéressent, qui intéressent l'entreprise, on met à jour également, bien sûr, un certain nombre de métaux qui sont toxiques et dont on n'a pas besoin forcément. Ça a été le cas là à Saint-Félix, où finalement, des métaux comme l'arsenic, métalloïde, ou le cadmium, par exemple, ont été libérés en surface avec les déchets. Et c'est ça qui pose problème. D'ailleurs, ça pose tellement problème qu'en 2015, l'ARS, à notre demande, avait proposé une enquête de dépistage pour la population sur la base du volontariat. Cette population est venue en nombre, puisqu'à l'époque, par exemple, sur un premier dépistage, il y avait eu 650 personnes qui s'étaient présentées à Saint-Félix. Et on avait constaté que sur 650 personnes, enfants et adultes, il y avait environ 23% des personnes qui avaient des taux d'arsenic dans les urines qui étaient supérieurs aux normes admises, et 14% pour le cadmium. Alors quand on connaît les effets sanitaires que déclenche l'arsenic ou le cadmium, évidemment, malheureusement, on peut s'attendre à des pathologies qui ne vont pas apparaître tout de suite, mais qui vont apparaître dans les années futures, ensuite, quoi. Moi, je suis médecin retraité, j'ai fait partie. Alors sur ce plan, justement, vu les résultats et la mobilisation citoyenne, finalement, la Haute Autorité de Santé, à la demande de la Direction générale de la Santé, a demandé la création d'un groupe de travail, d'un groupe d'experts pour savoir qu'est-ce que ça fait l'arsenic, entre guillemets, sur les gens. Donc il y a eu un premier travail qui a été fait auquel moi j'ai participé. Ce rapport de la HAS est paru en 2020. Il est d'ailleurs en ligne hein, sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il a pour titre « Dépistage, suivi et prise en charge des personnes vivant sur ou à proximité d'un site pollué contaminé par l'arsenic ». Donc ça, c'est la première chose où on apprend beaucoup de choses, bien sûr. Et ils ont continué le même type de travail avec un deuxième groupe qui est en train de se réunir et qui finit. La 10e journée de travail va avoir lieu d'ailleurs le 3 avril, dans quelques jours, sur le cadmium. Et donc il y aura un rapport sur le cadmium qui va paraître à l'automne 2024. Tout ça à destination des professions médicales et paramédicales, parce qu'il faut savoir malheureusement que les professions médicales sont totalement ignorantes des pathologies engendrées par l'arsenic ou le cadmium dans le cadre de la santé humaine. Et donc il était nécessaire de se mettre un peu à jour et que les gens concernés dans les zones polluées, contaminées, sachent quoi faire par rapport à ces problèmes de contamination.
Donc François Simon, vous êtes ici, donc toujours, je le disais, pour parler au nom de ADANVM, cette association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, mais il y a l'Assemblée Générale le samedi 30 mars à 16h à la salle communale de Saint-Félix de Palières. L'occasion justement de faire le point sur les activités de l'association de l'année. Et il y aura une projection de film vers 16h30. Un film
17h30.
Ah pardon, 17h30, j'ai pas la bonne. Oui, une heure après le début, effectivement. Un film justement qui revient sur l'histoire de cette pollution et de la lutte de l'association.
Oui, ce film est réalisé par Bernard Richard, qui a déjà réalisé plusieurs films, et qui dresse un petit peu un état des lieux hein, sur ce qui s'est passé depuis presque une quinzaine d'années. Voilà, et qui décrit un petit peu les difficultés rencontrées, entre autres par l'association, évidemment, pour obtenir satisfaction, au moins obtenir des résultats concernant les confinements, même si on en a obtenu un peu, mais c'est pas terminé, quoi.
Bah, parce que c'est quand même ça qui est assez effarant, j'ai envie de dire, dans ce dossier, qui est assez emblématique. On va voir que c'est un dossier qui, s'il peut sembler ponctuel, en fait, est assez représentatif d'une... une réalité qui est un petit peu ignorée au niveau du territoire français. C'est donc, on l'a dit, la société qui a exploité les mines a rendu le site, à un moment donné, aux autorités françaises qui l'ont, à l'époque, je crois, trouvé tout à fait satisfaisant, l'État. C'est-à-dire qu'ils ont rebouché un peu les trous, si je me rappelle bien. On rebouche un minimum. Mais comme vous le disiez, il y a énormément de choses qui restent à l'air libre. Tous ces tas qui sont, bah, on appelle ça les stériles, c'est ces fameuses roches qui n'ont pas servi, qui ont juste servi à accéder au filon. Toutes ces choses-là qui sont encore porteuses de polluants, alors peut-être on peut leur donner l'avantage de la bonne foi pour l'époque. Peut-être qu'à l'époque, personne ne se disait que c'était dangereux, mais ça semble quand même assez, assez improbable.
C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas la connaissance qu'on a maintenant. Le mot « environnement » quasiment n'existait pas dans le langage courant, si je puis dire. Donc effectivement, je sais qu'un de nos amis du CA qui avait assisté aux travaux qui avaient été faits, la sous-préfète de l'époque était venue et tout le monde s'était levé d'un seul homme pour applaudir un petit peu ce qui avait été fait, alors que c'était vraiment très très minime, hein, c'était très insuffisant. Mais enfin, on avait l'impression que c'était presque un modèle, de, non pas de dépollution, mais de confinement, alors que c'était très succinct. Donc on se rend compte maintenant, aujourd'hui, qu'effectivement, on est capable de faire de gros efforts pour extraire des métaux, mais qu'après, par contre, tout en sachant bien sûr qu'il n'y a pas de mine propre, de toute façon, je veux dire, on laisse quand même les choses dans un état totalement déplorable.
J'ai lisé, avant qu'on se rencontre, quelques articles qui ont été, des enquêtes qui ont été menées par le média Reporter, qui s'est intéressé d'ailleurs à la situation de Saint-Félix de Palières, et plus largement à cette problématique, cet éléphant dans la chambre des pollutions minières en France et en Europe, puisque pendant des décennies, ça a été un petit peu la fête, hein, on prenait tout ce qu'on voulait, on pouvait, et puis ça générait derrière de l'industrie, de la croissance. Mais aujourd'hui, ce sont énormément de territoires qui sont concernés par ces pollutions. Je crois 10% des communes de France, et on parle de France métropolitaine, parce que si on va outre-mer avec la Guyane et tout ça, ce qui est fait là-bas est complètement catastrophique. Il y a des proportions qui nous sembleraient complètement hallucinantes ici. Mais ce que vous soulignez là, c'était deux choses. C'est d'une part que les connaissances finalement globales sur les impacts, parce que si on prenait en compte notamment les effets sur l'environnement et la santé, peut-être que certaines mines aujourd'hui ne seraient plus si rentables que ça, si on prend en compte toute la chaîne, d'une part. Et de l'autre, c'est que c'est finalement à vous, des associations de riverains, de citoyens, de chercheurs indépendants en tout cas, qui se mettent dedans, de fournir des données pour prouver que ça ne va pas, voire même proposer des solutions alternatives. Je sais que c'est des choses que vous avez fait, à aller chercher ce qui se fait de nouveau aussi dans la, je sais pas, chez les géologues et les ingénieurs, de solutions pour, justement, on parlait de confinement, peut-être on peut préciser, donc dépollution signifierait faire disparaître la pollution, en gros, transformer quelque chose de toxique en quelque chose de pas toxique, là des fois c'est pas possible, donc l'idée c'est au moins de les bloquer là où ils sont, et qu'ils n'aillent pas par l'air ou l'eau contaminer les riverains. C'est bien ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, de dépollution, dépolluer des zones comme ça, comme par exemple la digue Humicore, où il y a 1,5 million de tonnes de déchets, c'est strictement impossible. Donc, comme vous le dites, effectivement, la meilleure solution, c'est de confiner cette zone. Il faut savoir qu'à une époque, ces dunes, hein, qui étaient constituées de fines de mines, étaient tellement... tellement belle, si je puis dire, que les gens venaient, s'amusaient dedans, roulaient, c'était comme du sable. On serait cru à la mer de sable d'Hermenonville, en banlieue parisienne, etc. Et il y a même encore, je crois, des gens qui venaient, ou même encore maintenant, peut-être sur celle de...
Prendre le sable.
Oui, à Durfort, des gens qui viennent et qui prennent de ces... Comme ils estiment que c'est du sable et que ça va être bien dans la construction, tout ça, et ils se servent. Je crois que, bon, on a vu des traces, là, quand on est allé visiter le site de Durfort, il n'y a pas longtemps, puisque c'est totalement à l'air libre, qu'il y a des traces de pneus, des gens qui viennent se servir, et c'est un peu excavé par endroits, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça peut être très bien, c'est du sable gratos. Quoi, hein,
ça veut dire que c'est quand même des zones qui sont encore accessibles à tout un chacun, et il y a très peu de signalisation, si je comprends bien.
Il n'y a plus de signalisation. Il y a eu, par exemple, je suis venu avec le rapport qu'avait envoyé le préfet Belion de Durfort, il y avait la même chose qui avait été envoyée sur Saint-Félix, et ce rapport, il était réalisé par Géodéris, qui est le groupement d'intérêt public qui s'occupe de l'après-mine en France. Et dans ce rapport, la première page... C'est le petit mot du préfet au maire à l'époque de Durfort, je crois que c'était Monsieur Allu à l'époque. Ça date de décembre 2008, et il est dit, bien sûr, qu'il y a une pollution qui a été notée, et il met en conclusion « Je vous invite, dès réception de la présente et à titre de précaution, à mettre en œuvre des mesures simples de sécurité, telles que signalisation du danger ou clôture éventuelle des zones les plus contaminées, destinées à limiter le temps de présence des riverains et des promeneurs dans ces zones. » Alors, ils ont mis effectivement des panneaux à l'époque, un petit peu, quelques-uns, je me souviens. Ces panneaux ont été vite arrachés. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste un, il n'y en a plus du tout. Donc, c'est libre d'accès, je veux dire, on peut se promener. Et effectivement, là, il y a des fines de mines avec il y a eu des... À l'époque, dans ce rapport, il y a des analyses... Hein, il y a des points précis qui ont été analysés. Il y a des quantités phénoménales de plomb, d'arsenic, d'antimoine, de cadmium, etc. Donc là, à l'air libre, c'est vraiment un scandale. Parce que depuis 2008, non seulement les gens n'ont pas été prévenus par le maire de l'époque, par le préfet de l'époque, parce qu'il n'y a pas eu de réunion générale, mais en plus, les choses ont été laissées en l'état complet, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, il y a le détail là dans ce rapport qui fait 13 pages. Et il y a environ presque un hectare, hein, il y a des cartes, il y a un hectare de déchets miniers qui sont entreposés, je veux dire, le long de la route et à côté, bon, qui sont hautement toxiques, c'est vraiment absolument anormal, quoi. Il faudrait que les Dufortois se réveillent, hein, comme nous on a pu le faire chez nous à Saint-Félix, et fassent quelque chose, parce que bon, c'est vrai que Géodéris avait prévu de faire une interprétation d'état des milieux à Durfort, et puis quand Saint-Félix est sorti, entre guillemets, de la boîte de Pandore, ils se sont occupés de Saint-Félix, ils ont mis, c'est ce qu'ils disent, ils ont mis tout le fric sur Saint-Félix, et puis ils ont abandonné Durfort, et depuis, bah, Durfort, c'est comme en plus la municipalité actuelle, je crois, ignore totalement la situation et ne fait rien pour y remédier. Eh bien, les choses sont en l'état, mais c'est vraiment un problème, quoi. C'est sûr.
Je propose qu'on reprenne un peu d'air pur avant de continuer cette discussion avec Trio, l'hymne de nos campagnes, un classique. Et plutôt... gâteau de circonstances.
Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
si tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'était Trio, bien évidemment, avec l'hymne de nos campagnes pour nous accompagner, reprendre un petit peu d'oxygène au cours de cette plongée dans les mines de Saint-Félix et leur lot de particules fines et de métaux lourds qui sont encore là et pour des années et des années, parce que c'est pas une pollution qu'on peut faire disparaître. Je vous lis les quelques lignes qui sont en exergue justement du film qui sera projeté lors de l'Assemblée Générale de l'association Adam VM ce samedi 30 mars. C'était ceci, c'est sur la jaquette donc du fameux film de Bernard Richard. On y lit que cette pollution considérable dans les Cévennes et en Europe est colossale dans le monde. La prédation légale pratiquée par l'industrie minière est protégée par des scientifiques complaisants et un droit biaisé. Et la pollution en métaux lourds perdure des siècles, voire des millénaires. Ça, c'est un état des lieux pas très très réjouissant. Et on le disait avant la pause musicale, ce qui est assez, on va dire, particulier, je pense, et original dans la situation de Saint-Félix-de-Palière et des quelques autres mines cévenoles, c'est que ce sont des zones très habitées, peut-être contrairement à d'autres sites en France où, effectivement, l'indifférence générale et le fait que ça soit dans des zones peu prisées, où il n'y a pas forcément de communes vraiment sur place, peut permettre peut-être à certains industriels ou à l'État de fermer les yeux. Mais là, on parle d'endroits, il y a vraiment des maisons au milieu. On a parlé des promeneurs, mais il y a quand même carrément la commune elle-même est complètement imbriquée, intriquée quasiment dans ce réseau. Ça en fait une caractéristique, je crois, assez particulière, parce que si justement toutes les considérations de santé publique étaient prises en compte à leur juste niveau, c'est-à-dire par exemple avec des indemnisations financières, ça pourrait être en fait la boîte de Pandore qui fait peur à l'industrie minière. Je ne sais pas si vous avez l'impression, vous, d'être
Il est sûr.
Un grain de sable dans une énorme machine, en fait.
Oui, c'est un petit peu ce qu'on fait. Il est certain que quand le préfet a transmis à l'ADEME le dossier de M. Gomez, par exemple, qui était un habitant de Tornac, qui lui vivait sur une ancienne laverie où le lieu était hautement contaminé au plomb, puisqu'on avait retrouvé 423 000 mg de plomb par kilo de terre sèche, c'était considérable. Il est évident qu'il fallait partir de là rapidement, et donc il n'y avait pas photo, comme on dit. Donc il a été indemnisé, il a pu partir, la maison a été rasée, etc. Mais nous, on estime, bon, bien sûr que pour M. Gomez, c'était indispensable, mais il y a d'autres familles qui sont dans des situations moins catastrophiques, mais tout autant justifiant tout autant une indemnisation. Et quand on a présenté au préfet de l'époque la liste des... On avait estimé une quinzaine de familles qui pouvaient être concernées. Et bien finalement, ils avaient mis la barre tellement haute avec le dossier Gomez que de toute façon, ils ont dit non et ils n'ont pas souscrit, disons, à notre demande. Et il y a peu de gens qui sont allés au tribunal administratif pour essayer d'obtenir réparation. Et par exemple, M. Bourgeat, qui est allé au tribunal administratif, qui est sur une zone très contaminée également... Eh ben, il a été débouté, il a fait appel, et là on est encore dans des démêlés judiciaires qui sont très très longs, et le jugement n'est toujours pas rendu après l'appel. Donc les choses sont très compliquées. De toute façon, sur le plan juridique, en tant qu'association, nous on a perdu, parce que quand on a déposé quand même une cinquantaine de plaintes au pénal, au tribunal de grande instance de Marseille, au pôle santé environnement, et en fait le procureur de Marseille... qui a rendu le jugement en 2020, a eu le culot, si je puis dire, de dire que y avait des doutes sur le fait que la pollution était peut-être pas forcément d'origine anthropique, c'est-à-dire liée à l'activité humaine, mais que peut-être c'était d'origine naturelle. Et puis la deuxième remarque... qui venait...
C'est un argument...
incroyable.
D'une mauvaise foi et imparable, vu qu'effectivement, il y a eu des mines là, parce qu'il y avait forcément ces matériaux-là, mais...
Bien sûr, mais bon, c'est vrai qu'il y a un fond, ce qu'on appelle géochimique, c'est vrai, mais pour sortir, pour trouver l'arsenic et le cadmium, il faut aller le chercher, il faut broyer la roche, il faut la sortir du sous-sol pour le mettre en circulation, à l'air libre. Donc, je veux dire, c'est un argument qui ne tient pas. Et le deuxième argument, c'était... Ils avaient interrogé, on a été interrogé évidemment par l'OTLAEFS, c'est-à-dire l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et en santé publique, donc des inspecteurs judiciaires qui sont venus, et donc on a été interrogé en gendarmerie. Et le deuxième argument, c'était, donc il y avait trois toubibs qui avaient été interrogés, un qui avait exercé à Anduze, un qui exerçait à La Salle, et moi qui avait exercé à Anduze et ensuite à Alès. Et en fait, on était deux à dire qu'effectivement, qu'il y avait des choses qui nous surprenaient beaucoup sur les pathologies rencontrées, même si on ne connaissait pas grand-chose, etc. Et puis le troisième n'était pas d'accord, il trouvait qu'il n'avait pas vu grand-chose, etc. Et donc, à partir de là, ils ont dit, et également, il n'y a pas de consensus scientifique pour dire les choses. Et voilà, et on en est resté là. Et donc, à partir de là, ça a été classé sans suite. C'est-à-dire, c'est vraiment... Alors, il lui fallu se constituer partie civile et repartir au combat. C'est vrai qu'on est tous un peu vieillissants dans l'association, il faut le reconnaître, malheureusement, que les jeunes sont moins intéressés ou peu intéressés par le sujet.
Ça demande un certain dévouement, en plus d'aller se farcir la documentation technique.
De s'y investir, etc. Bah, on espère un petit peu du relais maintenant et rajeunir un petit peu l'assaut. Mais c'est vrai que on n'avait pas les forces pour continuer le combat sur le plan juridique au pénal, qui aurait certainement été utile, d'autant qu'ensuite, en 2020, sortait le rapport de la HAS sur l'arsenic, qui aurait pu être un élément ensuite intéressant sur le plan au niveau juridique pour nous aider. Mais il se trouve que on est resté un peu bloqué, quoi.
Pour revenir sur la réalité des habitants de Saint-Félix, donc on l'a compris là à travers l'exemple dont vous nous parliez, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des zones qui sont polluées au niveau du sol, voire même des maisons qui ont été construites, parce que depuis les années 70, j'imagine qu'il y en a eu quand même des nouvelles constructions. Donc des gens qui ont construit leur habitat sur des zones qui n'étaient pas propice à, voire même peut-être avec une partie de matériaux qui était même contaminée, je ne sais pas, au niveau des infrastructures publiques, peut-être municipales, et toutes ces choses-là, donc, dans l'ignorance. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on est inquiet pour sa santé, qu'on veut partir vendre sa maison, par exemple, bah maintenant que tout le monde sait que, puis on n'a pas très envie de vendre une maison qui est polluée, déjà, et en plus il y a une mauvaise publicité, j'imagine,
d'abord, on
là-dessus,
apprend,
donc les gens sont coincés concrètement.
D'abord, on n'a pas envie, par exemple, Michel Bourgeat, il a même pas voulu vendre sa maison dont il sait qu'elle est sur une zone contaminée parce que l'acheteur avait des enfants, tout ça, et lui, c'était un crève-cœur d'imaginer que des enfants viennent vivre là, tout ça, dans cette zone.
C'est vraiment vivre en zone contaminée, quoi.
Là, c'était vraiment le cas. Et donc, je veux dire, c'est sûr que le patrimoine, en plus, cette maison est invendable, par exemple, pour lui. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, tant qu'on est dans une situation où il n'y a pas de confinement, où il n'y a pas de réhabilitation des zones, etc., et que les choses ne sont pas sécurisées, bah évidemment, le patrimoine subit la dégradation de la situation.
Quoi. Puis la vie quotidienne avec les inquiétudes pour les enfants. Si on veut jardiner, je crois qu'il est préférable de ramener de la terre d'ailleurs, éventuellement de se faire des
bacs. Tout à fait. Il est déconseillé de jardiner
du thym dans la forêt.
Dans ces conditions-là, c'est sûr que il faut soit amener de la terre saine d'un peu plus loin, d'ailleurs, ou éviter tout simplement d'envisager un potager dans ces conditions.
Ouais. Alors on l'a compris, donc c'est l'association qui a énormément travailler pour ne serait-ce que ramasser des informations. Vous parliez de la santé des riverains, donc j'imagine que vous avez observé peut-être, ou d'autres médecins, des cas peut-être de maladies graves, mais comme on le disait, des fois c'est sur le long terme ou c'est des maladies chroniques, donc c'est très dur d'imputer la cause directe, mais bon, les statistiques quand même peut-être montrent des choses.
C'est très compliqué de mettre un lien de causalité direct entre un état de pollution et un état sanitaire d'une personne. On n'a pas des éléments, il faudrait des études épidémiologiques un peu poussées. Ce qui est sûr, c'est que compte tenu de l'imprégnation des populations, ce qui apparaît à travers le dépistage qu'avait réalisé l'ARS en 2015, il est évident, je veux dire, de toute façon, c'est une logique implacable. Il est évident que malheureusement, il y aura un certain nombre de gens qui vont développer des maladies graves, que ce soit de l'insuffisance rénale liée, enfin des problèmes rénaux ou des problèmes osseux avec le cadmium, que ce soit des problèmes de cancer, mais qui vont, pour le cadmium comme pour l'arsenic, mais qui vont mettre 10, 15, 20, 25 ans avant de se dévoiler, parce que en plus, ces métalloïdes et métaux ne sont pas à seuil de dose, c'est-à-dire qu'il suffit de doses très faibles parfois pour enclencher un processus. Évidemment, ce n'est peut-être pas seulement le polluant qui va être à l'origine de ça, mais peut-être qu'il y a plusieurs autres circonstances, mais finalement, ou un cocktail qui va générer quelque chose et qui va déclencher des problèmes de cancérogénèse, quoi. Donc évidemment, pour en connaître le temps, enfin la dégradation, la période à laquelle ça va survenir, c'est impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, statistiquement parlant, c'est une évidence que quand on se trouve exposé à ces polluants, on aura des soucis de santé plus ou moins importants, mais bon, parfois majeurs.
Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ces questions de responsabilité là, qu'on a un petit peu effleurées ? Donc on a nommé Umicore, qui était la société qui exploitait ces mines, qui a donc rendu à l'époque en toute légalité le site aux autorités françaises. Donc là, vous parlez tout à l'heure, par exemple, de personnes qui ont saisi la justice. Alors contre qui est-ce qu'on se tourne aujourd'hui ? Est-ce que du coup, c'est vers les pouvoirs publics ? Ou est-ce que ceci aussi nous renvoie vers à l'époque, l'industriel en question ? Où est-ce qu'on en est là-dessus ?
Les plaintes au pénal qu'on avait déposées, c'était des plaintes contre X. C'était donc au tribunal à dire qui était responsable. Mais comme il y a eu un classement sans suite, évidemment, personne n'est responsable. C'est-à-dire que les éléments pour eux, pour le tribunal, les éléments n'étaient pas réunis pour accuser X ou Y. Mais il est évident qu'il y a deux responsables majeurs. Un, bien sûr, le pollueur, qui devrait être le payeur. C'est-à-dire le pollueur, c'est Umicore, qui est une entreprise multinationale belge qui continue de très bien se porter, sans problème pour eux, de par le monde. Je crois qu'ils sont les premiers producteurs au monde de cobalt, par exemple. et ils ont un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Bon, enfin, ça va pour eux, quoi, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est l'industriel. Et puis deux, l'État. C'est-à-dire l'État, quand même, a laissé faire un certain nombre de choses. Hein, l'État, par exemple, a laissé l'industriel partir presque en à la va-vite, je veux dire, sans remédier, sans réhabiliter les zones, etc., etc. Donc l'État n'a pas fait le nécessaire, n'a pas surveillé, etc. Il faut dire que très probablement le code minier est quand même en faveur des exploitants. Hein, je veux dire, le code minier n'est pas en faveur des populations, etc., puisque, bon, on sait très bien que la mine génère des dégâts environnementaux et sanitaires. Donc, il devrait y avoir, effectivement, une protection. Alors, le code minier a été révisé l'année dernière, il y a 2 ans. Il devrait y avoir, effectivement, des obligations pour l'exploitant de faire un certain nombre de choses. Mais bon, vu la ruée minière qui s'annonce... Hein, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle » qui vient de paraître là, par Célia Huisoar, qui a écrit ce bouquin récemment. Vu la ruée minière qui s'annonce, je veux dire, tout le monde est dans les starting blocks parce que bon, il faut aller chercher du lithium, il faut aller chercher du cobalt, du germanium, du cuivre, etc. Donc la transition écologique est très friande dans tous ces matériaux, y compris pour les éoliennes, etc. Donc ça veut dire qu'on est en train d'abandonner une dépendance aux hydrocarbures et on passe à une dépendance aux métaux, parce que bon, tout le numérique également a énormément de besoins de silicium et de choses comme ça. Donc il faut aller creuser, il faut aller chercher, parce qu'on veut devenir indépendant sur le plan énergétique, on ne veut plus être dépendant de la Chine, de l'Australie, du Brésil ou d'ailleurs. Mais le résultat, c'est que, je veux dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un problème sociétal énorme, parce que, au contraire, vu les dégâts que l'industrie minière occasionne, parce que c'est l'industrie la plus polluante qui existe au monde, on devrait être plus sobre, on devrait se tourner vers le recyclage, on devrait garder les choses importantes simplement pour les choses absolument indispensables et non pas pour le superflu. S'il s'agit de faire des batteries au lithium pour des SUV, je veux dire, qui pèsent 2 tonnes, etc., pour les gens qui sont riches, je veux dire, on va dans le mur, ça va pas. Je veux dire, il y a quelque chose qui est problématique pour la société dans son ensemble.
On se retrouve juste après Le Déserteur de Boris Vian pour se redonner un peu de cœur à l'ouvrage.
Oui, Le Déserteur, surtout pour en pensant à ce qui se passe aux frontières de l'Europe, cette guerre qui se passe en Ukraine et puis ce qui se passe à Gaza, etc., ce sont des choses qui sont tellement catastrophiques que, bon, on aimerait bien effectivement que les choses soient autrement, mais faut-il déserter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle chanson.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Le Déserteur, une chanson de 1954, m'apprend YouTube à l'instant. Ça marche toujours. Nous sommes donc toujours avec François Simon, qui représente l'ADAN VM, l'Association pour la dépollution des anciennes mines de la Vieille Montagne, qui est située sur Saint-Félix-de-Palière, mais où, si vous nous écoutez, vous aurez compris qu'on parle d'une situation bien plus large géographiquement que celle de cette commune. Et d'ailleurs, les Cévennes sont quand même assez bien pourvues en passé minier, donc avec des situations similaires. On parlait de communes où c'est déjà les choses sont avérées, mais où il n'y a pas forcément d'action derrière. Mais il y a aussi des communes peut-être qui ignorent encore totalement ou qui ferment les yeux, en tout cas sur certaines parties de leur pollution. Je ne sais pas si vous avez des contacts peut-être avec des gens qui habitent à Saint-Laurent-le-Minier, par exemple, parce qu'ils sont une situation assez cocasse aussi.
Oui,
mais
on était allé rencontrer les gens de Saint-Laurent-le-Minier au début. Bon, c'était les gens de la mairie d'ailleurs, mais bon, il n'y a pas eu de contacts qui se sont pérennisés, c'est dommage. C'est vrai qu'on est un petit peu isolé, on a eu des contacts avec des gens à Salsigne aussi, mais alors là c'est l'Aude, c'est un plus loin. Ça a été, où ils ont extrait énormément d'arsenic à une époque, c'était la première mine d'arsenic d'Europe, mais c'était aussi une mine de zinc et plomb. Mais c'est vrai qu'ici, il y a Saint-Laurent-le-Minier, il y a Durfort, dont on ne parle pas, parce que, c'est la mine a fermé en 57, je crois, et puis les municipalités qui ont suivi n'ont rien fait du tout pour faire quelque chose par rapport à ces déchets qui sont là, à l'air libre, et donc ça, c'est un vrai problème.
C'est vrai que c'est une pollution qui est invisible. Pour peu qu'il y ait un peu de végétation qui repousse dessus, c'est très sympa, c'est la garrigue, ou ça fait des tas de sable pour les gamins. Ça alerte moins forcément les choses invisibles, tout comme la radioactivité d'ailleurs, ou les plis microplastiques dont on parlait, une décharge de pneus par exemple, où là les gens réagissent, que peut-être qu'en termes de toxicité c'est moins dangereux. En tout cas, vous êtes malgré tout avec cette association devenu un peu des références, et vous avez expérimenté... le terrain, amasser des informations, ce qui fait qu'on vient aussi vous rencontrer de loin pour étudier ce cas. Je lis sur votre site qu'il y a des chercheurs, une quinzaine de chercheurs en poste en France, Bolivie, Équateur, Maroc ou Mauritanie, qui sont venus en juillet avec l'Institut de Recherche et Développement, justement, pour étudier toutes les implications.
Il y a des chercheurs qui sont associés à l'École des mines d'Alès, par exemple. L'École des mines d'Alès est venue à plusieurs reprises visiter le site de l'ancienne mine de Saint-Félix.
C'est-à-dire que les étudiants maintenant
se sensibilisaient justement à l'après-mine, parce que ils sont en train d'étudier comment une mine ça marche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va chercher, tous les problèmes techniques. Mais l'après-mine c'est autre chose, quoi. Et donc le témoignage des gens de l'association qui ont été plus ou moins impactés par la situation, ça les intéressait, c'est sûr. Et donc, pour eux, c'était vraiment presque un révélateur, quoi.
Et alors, vous nous disiez au début de cette émission qu'il y avait quand même à Saint-Félix, malgré le tableau très noir qu'on fait, des solutions qui avaient été proposées, avancées, qui sont en cours. Donc, on parlait du confinement de cette digue. Donc, il y a des choses qui avancent malgré tout.
Tout à fait. Ça, c'est quand même, heureusement, les choses ont pu avancer. Comme Mumicor était, comme je vous l'ai dit, propriétaire de la digue encore, eh bien, ils ont été contraints de faire le travail, de faire les travaux de confinement. Il faut reconnaître également, de ce point de vue-là, qu'il faut rendre hommage au préfet de l'époque, qui était M. Loga, qui depuis est ailleurs, je ne sais pas où, puisqu'il y a une mutation assez régulière des préfets et sous-préfets tous les 2-3 ans. Donc M. Loga nous a accompagnés, et il faut reconnaître qu'il était à notre écoute, et il avait donc édité 4 arrêtés de mise en demeure vis-à-vis du Mucor pour confiner les sites les plus contaminés. Il y avait la Gravouillère qui fait face à la digue du Mucor, qui est moins importante, mais qui est une zone aussi contaminée, qui reste contaminée, pour laquelle il y aurait des nécessités de travaux. D'ailleurs, Mucor avait demandé à un cabinet d'experts de présenter un travail sur les possibilités de confiner cette zone, ce qui a été fait, mais bon, c'est pour l'instant non réalisé. La Gravouillère, le cercle de l'Issard, qui est une sorte de zone très contaminée, qui est un peu plus bas que le puits numéro 1. Et puis, il y avait la mine Joseph, plus la digue. La digue, ça a été fait. Mais la mine Joseph, oui, ça, c'est, on en a parlé tout à l'heure, ça, c'est une mine qui est de l'autre côté de la route qui monte d'Anduze à Saint-Félix. Ça, c'est une zone qui est effectivement très contaminée et qui, là, appartient à des privés. Et là, maintenant, qui devrait confiner cette zone? Ça devrait être Mucor. Mais là, Mucor, comme il y a eu ces arrêtés de mise en demeure du préfet, il a contesté. Ouais. Et on est en justice. Et donc, ça fait des années déjà que les arrêtés ont dû paraître en, je ne sais plus, 2020 ou 2021. Et je veux dire, c'est toujours, il y a un appel, etc. Et donc, les choses ne sont pas résolues, quoi.
Ah, parce que tant que la pollution est sur le site même, qui était dans le domaine de la mine, qui sont encore propriétaires, on va dire que c'est assez facile. Mais effectivement, dès que les particules se déplacent et vont se mettre sur des terrains privés, les limites sont franchies et quelque part, l'entreprise peut s'en laver les mains ou les pouvoirs publics.
C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que, ils sont bien venus voir un peu localement quels étaient les accès possibles, les travaux possibles. Ils ont dit c'est très difficile, il faudrait faire des chemins, on va remuer la pollution, etc. etc. Enfin bon, bref, ils n'étaient pas de bonne foi, hein, si je puis dire. Ils étaient vraiment de mauvaise foi. En tout cas, manifestement, ils ne voulaient pas faire les travaux. Et comme il n'y avait aucune contrainte administrative et qu'ils sont encore en instance, disons, juridique, effectivement, il laisse traîner, quoi. Voilà. Donc, la mine Joseph, je ne sais pas si un jour ce sera confiné, il le faudrait, mais en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est une affaire qui traîne.
Et donc, pour ce qui est de suivre la conformité de ces travaux et de faire la veille, justement, sanitaire là-dessus, on va dire que c'est plutôt l'association, pour le coup, qui s'en charge, ou est-ce que les pouvoirs publics mettent un peu les moyens, quand même, au moins pour assurer que ce qui a été promis est fait correctement?
Je crois que, par exemple, depuis que le confinement a été réalisé pour la digue Mucor, l'entreprise s'est engagée à mettre des capteurs pour veiller à ce que, effectivement, la pollution soit jugulée, qu'elle ne se diffuse plus dans l'environnement, etc. Donc, il faudra voir un petit peu, parce qu'on n'a pas eu, de résultats là-dessus. Quelqu'un aurait dit que finalement les résultats n'étaient pas si merveilleux que ça, quoi, hein, même après le confinement. Je ne sais pas comment c'est possible, mais enfin, en tout cas, il faudrait effectivement y veiller, regarder de plus près un petit peu s'il y a une efficience, une efficacité de ce confinement. Sinon, évidemment, c'est à désespérer. Mais enfin, j'espère que quand même ça aura quelques effets. Et puis.
Et pour ce qui est de la veille sanitaire, l'aspect santé, justement?
Concernant la veille sanitaire, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, prenons un exemple, les examens qui sont des examens d'urine pour voir si effectivement vous avez des taux d'arsenic ou de cadmium, par exemple, qui sont trop élevés. Pour le plomb, c'est un prélèvement sanguin. Mais les examens, par exemple, urinaires pour l'arsenic et le cadmium ne sont pas pris en charge par la Sécu. Donc, il faut dire, en plus, c'est assez bizarre, mais bon, dans la France entière, selon que vous allez à Lille ou à Bordeaux ou ailleurs, je veux dire, les tarifs sont variables selon les labos. Donc, c'est impressionnant, d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça, parce que comme c'est pas pris en charge, de toute façon, chacun fait sa sauce et fait ses prix, si je puis dire, fait son marché. Et donc, il faut compter entre 80 et 100 euros pour les deux examens, pour l'arsenic et le cadmium. Alors, si jamais vous avez une famille qui présente des taux anormaux, qui a besoin d'un suivi tous les 3, tous les 6 mois, ou tous les ans, quand c'est moins grave, mais vous rendez compte un petit peu ce que ça représente comme dépense. Et puis, il faudrait, effectivement, qu'il y ait un véritable suivi. Par exemple, dans le rapport de la Haute Autorité de Santé qui a été envoyé aux différentes ARS de tous les départements, des régions et des départements, il y a des recommandations au niveau pour les pouvoirs publics. Les recommandations, elles sont de deux ordres. Ils ne se prononcent pas sur la prise en charge de la Sécu, ça c'est autre chose. Ça c'est quelque chose qu'on va essayer de voir avec nos élus locaux, les députés, tout ça, pour essayer d'influer sur la Direction Générale de la Santé pour obtenir un remboursement. Mais ils demandent deux choses. Ils demandent, un, que les médecins et les professions médicales et paramédicales soient formés aux pathologies qui sont engendrées par ces toxiques, parce que là-dessus, je veux dire, je peux en témoigner, puisque j'étais médecin, on n'avait aucune formation à la fac là-dessus. C'est quelque chose qui était totalement inconnu. Je ne sais pas si maintenant il y en a beaucoup plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut cette formation médicale continue pour que les médecins, les professions paramédicales sachent quoi faire face à des situations pareilles dans des zones contaminées. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui était une recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'était qu'il y ait un registre qui soit créé avec une anonymisation des personnes pour pouvoir avoir un suivi, voir un petit peu si ce qu'on fait c'est efficace, est-ce que la pollution continue, est-ce que les taux augmentent, diminuent, etc. Et avoir des outils statistiques, des choses comme ça, qui permettent un petit peu de voir si les soins sont efficaces, le suivi, à quelle fréquence, etc., etc. Or, ça, je veux dire, les gens de l'ARS ont dit oui, on va faire la formation, je vous assure. D'ici la fin 2023, ça va être mis en place, il n'y a rien eu qui a été mis en place. En plus, le directeur est parti à la retraite. Le suivant, pour l'instant, n'a pas donné signe de vie encore. Et, concernant le registre au niveau national, ça, il va falloir pousser, quoi. Il faudrait pas qu'on soit les seuls, d'ailleurs, mais c'est quand même une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Il faudrait que ce registre soit mis en place pour pouvoir avoir un suivi et voir l'efficacité de la prise en charge qui soit réelle, quoi.
Ils en ont du boulot en retard, l'ARS.
Ils en ont du boulot.
Entre le glyphosate, les microplastiques, il y en a des choses dans les urines à détecter. Une jolie carte de France.
C'est sûr, malheureusement.
Bon, en tout cas, l'association Adam VM est toujours là. Vous l'avez soufflé un petit peu. Elle pourrait bénéficier d'un petit regain d'arrivants. Donc, si la question vous interpelle, vous aussi, ben n'hésitez pas à vous mettre en relation avec l'association, peut-être pour apporter
une aide. Oui, nous avons un site, c'est très simple, www.adamvm.fr, sur lequel il y a beaucoup d'infos et sur laquelle vous pouvez vous mettre en relation, bien sûr. Et on pense aussi, là, tout récemment, aux gens de Durfort, qui commencent à se manifester, parce qu'effectivement, là, il y a un retard qui a été pris sur cette zone. Et j'espère que des gens des Durfortois vont un petit peu se manifester et se mobiliser pour aussi venir nous épauler.
En tout cas, il y a un rendez-vous qui est déjà donné. Donc ce samedi 30 mars, c'est à 16h à la salle communale de Saint-Félix de Palières pour faire le bilan l'AG donc, de l'association, discuter et justement aussi voir ce film qui tente un petit peu de retracer les 15 dernières années, je crois, des actions de l'association.
Tout à fait, oui, un film de Bernard Richard qui s'appelle Drôle de digue et qui fait le point sur une quinzaine d'années de lutte.
Et effectivement, comme vous l'avez dit, si on va sur le site, on a accès à beaucoup de données un peu plus précises qui n'étaient pas forcément pertinentes de donner à la radio. Mais si vous voulez un petit peu des chiffres, des tableaux et des cartes, il y en a en pagaille. Vous accéderez aussi à des articles qui ont été rédigés il y a quelques années, notamment, je vous le disais, dans les colonnes de reporters, qui s'intéressent à cette problématique de manière un peu plus large au niveau français, car vous verrez que ce n'est pas une spécificité cévenole, malheureusement. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous dans ce micro, François Simon.
Merci
à très bientôt.
Merci à vous, Antoine.
Et puis, on va terminer en musique avec Michel Fugain qui nous invite là aussi à prendre de l'altitude. Bon après-midi à tous.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu.
Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro.
L'émission qui vous donne la parole.
C'est un bon roman, c'est une...
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.